Je suis évidemment très content d'être là, de pouvoir participer à ce séminaire, du laboratoire, de pouvoir en plus échanger, dans la perspective des collaborations avec le LAPA, puisque je fais aussi partie des chercheurs qui ont encore des programmes de recherche, et j'espère de nouveau en gestation, avec Philippe Dillmann et son équipe. Effectivement, aujourd'hui, nous allons parler de la question de la signature. Donc, la perspective interdisciplinaire dans laquelle je vais me situer est plutôt celle des collaborations entre historiens, historiens de l'art et, disons, conservateurs ou restaurateurs dans une perspective d'histoire matérielle, mais je n'entrerai pas dans l'étude physique ou chimique des objets dont je vais parler. La matérialité qui va m'intéresser, c'est celle, si vous voulez, graphique, qui peut se lire à la surface des œuvres, mais qui pose des problèmes particuliers à partir d'un signe, Delphine l'a rappelé, qui est la signature, et qui pour nous est un signe un peu paradoxal dans la mesure où il est à la fois devenu dans l'imaginaire la clé de l'authenticité de l'œuvre, très souvent, c'est-à-dire qu'on considère qu'aujourd'hui la signature est une garantie sociale, que la signature est aussi un élément symbolique fort, y compris dans la valorisation des œuvres, hein, selon qu'elles soient signées ou pas, et ça rejoint la question de l'authentification. Mais en réalité, dans la tradition de l'histoire de l'art, pendant très longtemps, on n'a pas tant travaillé que ça sur la question de la signature. Il y a eu le numéro de la Revue de l'Art de 1974 par André Chastel. Il y a eu ensuite un certain nombre d'autres travaux, mais c'est très récemment, si vous voulez, qu'on peut considérer que vraiment la signature est redevenue une problématique, et elle est assez largement redevenue à travers, d'une part, des travaux qui, pour le coup, ont convoqué l'analyse physico-chimique des œuvres, qui sont par exemple ceux du grand projet autour des œuvres de Rembrandt. Qui a montré que l'articulation entre la signature et le travail manuel fait sur l'œuvre était une articulation beaucoup plus complexe qu'on l'imaginait, puisqu'on a cette situation d'œuvres qui sont signées de Rembrandt, mais dont on voit à travers l'analyse matérielle qu'elles n'ont quasiment pas été faites par lui ou qu'il n'a presque pas touché, et d'un autre côté des œuvres dont on voit qu'elles relèvent de la touche de Rembrandt, mais qui n'ont pas été signées par lui. Et derrière ce Rembrandt Project, effectivement, ce sont assez largement les travaux de Charlotte Guichard, qui parlera tout à l'heure, qui ont déplacé la question sur le problème de la signature et de l'authenticité, de l'authentification. Et mon travail à moi en histoire du Moyen-Âge, il vient assez largement d'abord de ma lecture des travaux de Charlotte. En histoire du Moyen-Âge, et surtout sur la fin du Moyen-Âge et la Renaissance, même s'il y a eu un grand projet en Italie autour de Maria Monica Donato, la thématisation de la signature a été moins forte dans la peinture, moins forte sur la fin du Moyen-Âge. L'endroit où les gens se sont intéressés davantage à la question de la signature sur le Moyen-Âge, c'est plutôt la période du Moyen-Âge central, par exemple avec les travaux d'un historien de l'art suisse qui enseigne à l'université de Neuchâtel, qui s'appelle Pierre-Alain Mariot, mais d'autres gens autour de lui ont travaillé sur ces questions. Et là, on se trouve plutôt dans un référentiel qui est celui des signatures de sculpteurs sur des œuvres, sur des portails. J'en redirai peut-être un mot. Donc, essayez de mon côté de me placer dans une chronologie qui est le tournant du Moyen-Âge et de la Renaissance, qui évidemment, du point de vue de l'histoire de la peinture, est un moment important. Si vous voulez, la période qui va de Giotto et des années 1270-1280 jusqu'au XVIe siècle, un moment important de définition des cadres, non seulement techniques, mais idéologiques, de la pratique de la peinture. Et essayer d'explorer un peu la question de cette signature. Moi, je vais me focaliser sur une génération, et puis même à travers cette génération sur un personnage, j'y reviendrai, une génération donc qui est celle des premières figures importantes de la Pittura Nuova, des gens dont on sait qu'ils ont parfois signé leurs œuvres, comme les Lorenzetti ou comme Giotto. Et sur Giotto, il y a eu quelques réflexions autour de la question de la pratique de la signature et de l'artiste, en particulier celle de Giovanna Ragioneri, qui a déjà montré, au fond, sur Giotto, des choses analogues à celles qu'on observe plus tard, c'est-à-dire l'idée que les œuvres qui sont signées, qui portent le nom de Giotto, sont peut-être les œuvres auxquelles il a le moins collaboré à travers sa pratique d'artisanat. Par exemple, le Saint-François recevant les stigmates du Louvre, avec les chérubins, qui est signé Opus Iocti Florentini, ou le Polyptyque de Bologne, ou le Polyptyque Baroncelli, qui sont des œuvres dans lesquelles on pense, à partir d'une analyse matérielle, que les collaborateurs de Giotto ont pris une part importante, et qui du coup sont paradoxalement celles qui montrent le mieux son nom. Alors, ce paradoxe, on en comprend très bien la logique, au fond. C'est-à-dire qu'on va garantir d'autant plus la l'auctorialité de l'œuvre à mesure que l'auteur y sera peut-être moins engagé par sa main. Donc c'est en tout cas la problématique originelle qui se dessine chez Giotto. Moi, je vais m'intéresser à un contemporain de Giotto. Giotto, c'est la grande figure de ce que les historiens d'art ont souvent appelé l'école florentine. Avec Simone Martini, on se situera plutôt du côté de Sienne. Je voudrais aujourd'hui essayer de réfléchir à ces marques qui se trouvent sur l'espace pictural. Mon objectif n'est pas, je le dis tout de suite, d'essayer de faire remonter à la fin du Moyen-Âge les problématiques de la signature moderne et contemporaine. C'est-à-dire que, et c'est ça qui a été intéressant pour moi quand j'ai lu les travaux de Charlotte et que je les ai importés, si vous voulez, dans le champ que je connaissais mieux, c'est-à-dire que souvent la linéarité donne une fausse idée des pratiques matérielles. Il ne s'agit pas de dire que déjà au Moyen-Âge on trouvait le même genre de dispositif qu'on a ensuite avec Rembrandt ou qu'on a après dans les problématiques du marché de l'art. Au contraire, il s'agit plutôt d'essayer de réfléchir du point de vue des topiques médiévales à la signification d'une signature dans un monde où la problématique par exemple de l'authenticité de l'œuvre est tout à fait inconnu. Dans un monde qui ignore le marché de l'art. Les œuvres dont je vais parler sont uniquement des œuvres de commande. C'est-à-dire que tout le monde sait que c'est Simone Martini qui les a faites. Donc le fait qu'il mette son nom dessus n'a pas de signification pour le commanditaire au moment où il le fait. En tout cas, pas de signification d'authentification. Ce sont des œuvres qui ne circulent pas. Il n'y a pas de revente de ces œuvres. Elles sont toutes... c'est des œuvres dont on connaît à peu près toute l'histoire, elles sont toutes restées à l'endroit pour lesquelles elles ont été commandées, ou alors elles ont circulé à travers des grandes collections princières ou ecclésiastiques. Donc le fait d'avoir mis son nom n'avait aucune signification financière par rapport à l'imaginaire qu'on pourrait avoir de ces œuvres. Donc, dans ce contexte-là, pourquoi inscrire son nom sur une œuvre et quel est le sujet qui s'exprime en termes de subjectivité ou plutôt de processus de subjectivation, qu'est-ce qui s'exprime dans le fait d'inscrire son nom sur une œuvre au XIVe siècle, à un moment, je l'ai dit, et Delphine l'a rappelé aussi, à un moment qui est un moment très important dans l'histoire des signes d'authentification et d'auctorialité, mais non pas à travers la problématique du marché et de la valeur, mais plutôt à travers des problématiques qui sont la transformation, par exemple, des signes royaux, les travaux de Claude Jay sur la signature, les réflexions sur les marques comme les sceaux, sur l'évolution des monogrammes, et puis l'évolution de l'auctorialité dans les pratiques littéraires. Le XIVe siècle, c'est le siècle de Guillaume de Machaut, le siècle de Pétrarque, au cours duquel de nouvelles pratiques matérielles, par exemple celle de l'édition de ses propres œuvres dans des manuscrits unitaires, voient le jour, ou du moins se développent de façon très large. Donc, comment inscrire cela dans ce contexte? Pour cela, donc, j'ai choisi de porter l'attention ce matin sur Simone Martini, qui est donc un peintre siennois qui naît autour de 1280 et qui meurt en 1344. Donc, vous voyez, il a une dizaine d'années de moins que Giotto, pour le placer du point de vue de la chronologie. De Simone Martini, on a aujourd'hui conservé entre 30 et 40 œuvres selon les catalogues. Il y a des discussions d'authentification autour de la périphérie de certaines œuvres qui ne sont pas clairement attribués ou qui sont discutés par certains historiens de l'art, mais grosso modo, on est autour de 35 œuvres. Alors, certaines de ces œuvres sont dans un état fragmentaire ou ont été considérablement modifiées ou abîmées. Du coup, il n'est pas toujours facile de savoir combien d'entre elles portaient des signatures. Une chose est claire, en tout cas, parmi celles qu'on a conservées, il y en a 8 où la signature, ou disons le nom de Simone Martini figure, et où il figure d'une manière dont on peut penser qu'elle est originale et originelle, puisqu'il ne semble pas y avoir eu de repeint ou de modification ou d'intervention postérieure, ce qui est parfois le cas hein, dans certains tableaux de cette époque. Donc mon corpus, en fait, ce matin, ce sont ces 8 signatures, et ce corpus lui-même, et ce sera la grande organisation de mon exposé, se divise en deux. Il se divise en deux, c'est-à-dire qu'on a 4 œuvres qui portent la même formule, la formule Simone Decennis Mepingsit, et on a 4 œuvres qui présentent des variantes de cette formule. Je voudrais commencer par les 4 œuvres qui portent cette même formule latine, écrite en majuscule sur le cadre. Alors évidemment, vous ne le voyez pas du tout, c'est normal, parce qu'elle est écrite dans les écoinçons au-dessus des piliers de l'architecture qui se trouve en dessous, dans la prédelle. Alors, elle est écrite en petite, ça ne se voit pas, mais ce tableau, qui est un tableau très célèbre, commandé par le roi Robert de Naples, donc vous voyez, typiquement le tableau sur lequel l'enjeu d'authentification n'existe pas, c'est un tableau commandé par le roi Robert de Naples en 1317, qui célèbre son frère, Louis, qui est normalement l'héritier de la couronne et qui, en fait, avait une vocation religieuse précoce, qui a fait qu'il s'est abîmé dans la sainteté, et d'ailleurs il est mort très jeune, de privations diverses, il y a toute une hagiographie sur Louis de Toulouse, transmettant la couronne à son frère Robert. Donc vous avez Robert qui est agenouillé, et puis Louis de Toulouse qui est en majesté, donc un tableau qui célèbre la Beata Stirps des Angevins de Naples, et qui était destiné à être sur l'autel majeur de la cathédrale de Naples. Donc c'est un tableau qui fait... La partie supérieure du tableau fait 2,56 m de haut, et la prédelle elle-même fait encore 56 cm. Donc on a un tableau de plus de 3 mètres de haut et de 1,38 m de large, ce qui fait que dans la scénographie, il est beaucoup plus lisible qu'il en a l'air sur cette image, en plus mal pixelisée. Et d'ailleurs, la rénovation du musée de Naples à Capodimonte, où le tableau est conservé, a introduit un dispositif muséographique très intéressant qui n'existait pas autrefois, c'est-à-dire que maintenant, ce tableau est exposé dans un bout de couloir qui a été transformé en une sorte de chapelle un peu sombre, et on a sur lui une perspective qui est très très grande, c'est-à-dire qu'on le voit de très loin. Ils ont réussi dans le musée à le remonumentaliser en l'isolant, alors qu'avant il était dans une salle, et en découvrant sur lui une des grandes perspectives possibles, un des seuls endroits, disons, où on peut voir le tableau avec plus de recul qu'une seule salle du musée. Donc c'est assez intéressant de voir ce qu'ils ont fait récemment, puisque c'est un musée qui a été longtemps en travaux à la fin des années 90, début 2000. Alors, dans ce dispositif, là, on voit un peu moins mal. Hein. En fait, les lettres, enfin, on voit quand même assez mal, mais... Les lettres sont... Chaque syllabe est découpée, en fait. Vous voyez, vous avez si, mo, n, d, e, s. Donc, je vous ai fait... donc, tout est... ouais, si on peut peut-être couper les... Je ne sais pas. Ouais, vois si tu peux. Tu as raison, Alessia. Vas-y. Alors, t'as... C'est pas la clé ? Tourner la clé. Voilà. Voilà, on voit légèrement mieux. Non, mais t'as raison. Donc là, LX, IP. Donc, les lettres isolées deux à deux. Ce qui m'intéresse, si vous voulez, c'est l'utilisation ici du dispositif architectural qui commande une organisation graphique. Donc, ce n'est pas vraiment le découpage ou la signification de ce qui est écrit qui prend ici le pas. C'est plutôt cette organisation graphique qui rappellent, vous voyez, des dispositifs de type épigraphique, c'est-à-dire des dispositifs monumentaux de l'Antiquité ou du premier Moyen-Âge. Première occurrence et premier usage possible de cette expression. Deuxième exemple, le polyptyque de Sainte-Catherine qui est au musée de Pise, qui a fait aussi l'objet d'une restauration récente magnifique. Donc si vous allez à Pise, la restauration a été achevée il y a 2 ans. Et là aussi, nouvelle scénographie et nouveau mode d'exposition à Pise. C'est intéressant de voir comment on retravaille aujourd'hui dans les musées sur ce type d'œuvre. Parce que là aussi, le polyptyque était avant exposé de façon parfaitement banale. Et en fait, aujourd'hui, ils ont reconstitué un faux autel dans une pièce qui est en fait une ancienne chapelle à l'intérieur du musée. C'est-à-dire qu'ils ont replacé le polyptyque dans une position qui pouvait analogiquement... Alors, c'est de la recréation, c'est-à-dire que ce n'est pas un travail de même qu'à Naples qui vise à reconstituer les situations de visibilité du XIVe siècle. Mais disons qu'il y a une sorte de rappel analogique d'une culture visuelle qui n'était pas du tout évoquée dans les modalités d'exposition des années 50 à 90. Et donc le polyptyque est aujourd'hui dans un état merveilleux. En particulier, ils ont fait un travail sur l'or qui effectivement modifie beaucoup la vision. Là aussi, on est face à une œuvre monumentale. Il fait 3,39 m de large sur 95 cm de haut. Et là aussi, sur le bord inférieur du cadre central de la Vierge, donc là, qu'on ne voit pas du tout, se trouve la même expression... Simone de Senis, mais Pinxit. Bon, je continue là avec un autre polyptyque, le polyptyque de Saint-Dominique, qui fait là aussi 2,57 m de large, donc c'est pour vous situer un peu la taille de ces œuvres. C'est des œuvres qui allaient sur des autels qui, grosso modo, étaient larges comme les tables là qui sont devant vous. C'est ce type de référent auquel on pensait quand on commandait ce type d'œuvre. Alors là, l'inscription est accompagnée d'une date, 1320, et en fait la fin de la date est abîmée, donc on ne sait pas, on pense que c'est une œuvre qui date de 24 ou de 25. Et puis dernière inscription du même type, j'avance un peu puisque cette partie-là est plus descriptive. Un dernier tableau, très important dans l'œuvre de Simone, il y a parfois une petite discussion sur son attribution, parce qu'il y a des gens qui ont pensé que peut-être on avait ajouté l'écriture a posteriori. En fait, ça semble assez douteux. Alors c'est intéressant parce que là on passe à un tableau de tout petit format, c'est-à-dire que celui-là fait 49 cm de haut sur 35, donc c'est deux feuilles 21-29-7, ce tableau est en revanche une œuvre de la toute dernière période de Simone, c'est-à-dire l'époque où il travaille à la cour des papes d'Avignon. Et c'est une œuvre extrêmement travaillée, extrêmement précieuse. Elle ressemble, si vous voulez, à une œuvre d'orfèvrerie qui aurait été commandée probablement par un cardinal ou par un personnage important de la cour d'Avignon. Donc on n'est pas du tout dans le même type de peinture que tout à l'heure. Mais alors même que les usages, disons, visuels de l'image, la commande, l'ensemble de sa structure graphique diffère fortement, on a la même pratique de signature. Et dans la partie inférieure du cadre, il y a une petite écriture, là, qu'on n'arrive pas à lire non plus, mais j'espère qu'on va la voir. Voilà, là, on la voit un peu mieux. Donc, vous lisez Simone de Senis, mais Pinxit. Je pense que là, on arrive à lire assez bien. Et après, il y a également la date, qui est la date de 1342. Ce tableau, lui, il se trouve aujourd'hui conservé à Liverpool, au musée de Liverpool. On retrouve un certain nombre de traits qu'on a déjà observés sur les œuvres précédentes. Par exemple, des pratiques graphiques sur le dessin des lettres et sur les points de séparation, qui là aussi ont une parenté avec l'épigraphie, qui semble l'horizon de référence du peintre lorsqu'il signe. C'est-à-dire que, et c'est la première chose qui m'intéresse, ce ne sont pas les techniques d'authentification des actes écrits, comme les monogrammes ou les signatures, au sens des signatures royales de Claude Jay, qui fournissent le premier modèle de signature des œuvres. En tout cas, c'est l'hypothèse que je fais, et on pourra éventuellement en discuter, ça m'intéresserait d'avoir votre avis. Au fond, Je pense que l'épigraphie sert beaucoup plus de modèle à la manière dont on va penser à inscrire son nom sur l'œuvre que les dispositifs d'authentification diplomatique. Et si on accepte cette hypothèse, on voit que finalement, alors que tout au long de la carrière de Simonet, les œuvres vont voir leur taille se réduire progressivement, il va peindre des choses de plus en plus petites, il va finir par faire en fait plus que des tableaux très petits et très précieux, le dispositif de signature reste un peu le même, c'est-à-dire qu'on passe de la peinture monumentale à des œuvres de petite taille, mais on conserve cette graphie et cette visualité qui est, au fond, celle des écritures publiques ou des écritures exposées qu'avait évoqué Armando Petrucci dans l'Italie du Moyen-Âge central et de la fin du Moyen-Âge. Des œuvres qui sont caractéristiques de la culture civique, de son imaginaire, une sorte de lointain héritage de la romanité, dans lesquelles on finit par penser que quasiment la signature, et c'est aussi un peu mon hypothèse sur la première œuvre de Louis de Toulouse, la signature de type épigraphique donne une sorte d'échelle de l'œuvre. C'est-à-dire que ces lettres qui imitent des lettres monumentales dans une architecture donnent à celui qui regarde l'œuvre l'idée de ce que pourrait être l'œuvre en taille réelle si elle était monumentalisée. On voit donc que ces signatures constituent moins une authentification qu'un marquage de l'œuvre. Marquage de l'œuvre qui est aussi, si on accepte l'hypothèse épigraphique, un marquage de l'espace liturgique, qu'il s'agisse de l'espace d'une grande église sur un autel ou d'un petit espace privé, puisque les tableaux comme celui de Liverpool sont des tableaux de dévotion privée qui étaient destinés à des espaces intérieurs. Dans cette perspective, inscrire son nom sur l'œuvre, c'est la publiciser. C'est l'inscrire dans un registre de la culture visuelle qui est celui de l'honneur public. Le nom du peintre se hisse à la hauteur des auctores, des auctoritates dont les noms se trouvent sur les monuments et dans les villes. Et l'affirmation graphique du nom de l'artiste en ce sens est plutôt une sorte de conformation à un modèle visuel et symbolique plutôt qu'une affirmation de la subjectivité. Vous le comprenez bien, l'artiste ici, évidemment, ne signe pas quelque chose à travers lequel il affirmerait sa singularité artistique. Le cadre culturel dans lequel il se situe est plutôt celui des signatures d'artistes, hérité par exemple de la sculpture romane des 11e au 13e siècle, sur les chapiteaux, les tympans, les objets, qui sont des signatures qui prennent très souvent la forme X mais fecit. Alors bon, là vous avez un exemple monumental et brutal, le Panthéon à Rome avec Agrippa Costertium fecit. Évidemment, vous avez dans l'époque romaine comme à l'époque romane cette discussion infinie et impossible à trancher dans beaucoup de cas à l'époque romane sur ce que signifie le X dans X mais fecit. Est-ce que X c'est l'artiste ou est-ce que X c'est le commanditaire? C'est, vous savez, l'exemple d'apprentissage du latin pour les enfants. Caesar pontem fecit, ça ne veut pas dire que César a fait le pont lui-même avec ses petites mains, ça veut dire que César a fait faire le pont. Donc quand vous avez machinus X fecit, qu'est-ce que ça désigne en fait? Et c'est intéressant pour nous parce qu'évidemment ça pose un problème classique qui est celui de l'auctorialité, qui est l'auteur d'une œuvre. Est-ce que c'est celui qui l'a commandé, celui qui l'a pensé, celui qui l'a réalisé matériellement et à quel moment? Donc Cette question, elle travaille la sculpture romane, elle travaille l'épigraphie, elle travaille aussi la peinture. Donc là, vous avez Gofridus mais fecit. La cathédrale Saint-Lazare d'Autun, le très célèbre Gislibertus hoc fecit, sur lequel il y a eu une bibliographie d'historiens de l'art roman extrêmement abondante, parce qu'on ne sait toujours pas si Gislibertus c'est un chanoine, le duc ou le sculpteur. Vous avez ici la transposition dans le monde de la peinture avec une des plus vieilles inscriptions du même type dans la peinture. Là, j'étais dans la sculpture. En bas, là, vous voyez donc cette œuvre de Berlinghero Berlingheri, un crucifix des années 1230 qui se trouve au musée de Lucca et où on arrive à lire en bas Berlingheri, mais Pinxit. Cette attention à l'introduction du Pinxit et à la manière dont quelqu'un comme Berlinghero Berlingheri travaille au XIIIe siècle ses croix, ses crucifix pour y inscrire son nom, nous conduit progressivement vers le deuxième point d'analyse de ces pratiques de signature, une seconde signification, si vous voulez, à côté de la question du marquage de l'espace, l'interprétation de ces noms posés sur les œuvres comme des marques d'atelier. Des marques d'atelier parce que marquer l'objet, c'est ce que font les ébénistes, c'est ce que font les orfèvres, et c'est par exemple ici tout le problème de l'histoire du poinçon. Simone Martini est justement peut-être le peintre qui a la formation d'orfèvre, alors là on n'a pas d'information positive, la formation d'orfèvre la plus développée, en tout cas c'est quelqu'un qui utilise le poinçon d'une manière professionnelle et qui connaît très bien cette problématique de la signature en tant que marque d'atelier. Vous savez, c'est le même problème, par exemple, que les marques de sculpteurs et de tailleurs de pierre sur les pierres. C'est-à-dire que ces marques-là, elles ont des fonctions qui sont d'abord des fonctions économiques, de dénombrement, ou des fonctions de garantie d'authenticité et de savoir-faire d'un atelier donné dans un monde qui est celui de l'artisanat urbain. Donc, inscrire son nom sur l'œuvre, c'est aussi engager le patron d'une boutique, c'est engager un atelier, et puis c'est aussi en faire la promotion, puisqu'on expose le nom largement aux yeux de ceux qui peuvent venir le voir. Donc là, la signature joue un autre rôle, qui est celui d'une sorte de nom collectif abrité derrière une figure, et que même si l'œuvre a été réalisée par quantité de gens, et même l'œuvre la plus personnelle a fait très souvent l'objet d'un travail avec un menuisier. Donc la dimension collective de l'art ici est réinscrite dans un nom propre selon une logique artisanale. Alors, dernière question sur ces quatre signatures, après je parle rapidement des quatre autres. Qui est le « mais » qui s'exprime quand on voit « mais Pinxit » ou « mais Fekit » ? Et là, on ouvre à un autre horizon des problématiques de l'histoire de l'art. Qui parle dans le « mais » ? Première réponse, c'est l'œuvre elle-même. C'est-à-dire, c'est l'œuvre qui dit qu'elle a été faite. Mais c'est un problème très intéressant sur lequel je ne connais pas de source ancienne. C'est-à-dire, il faut imaginer que pour les gens qui écrivaient ces inscriptions, les choses avaient un sens évident. Mais en tout cas, je ne connais pas de texte ancien qui dise ah ben tiens, c'est marrant, les œuvres parlent quand elles imputent leur origine à tel ou tel personnage. Donc quand on dit Simone Mepingsit, finalement, l'œuvre pourrait s'exprimer. Deuxième hypothèse qui n'est pas exclusive, hein, le plus souvent, ces inscriptions sont situées sur la partie inférieure du cadre, en dessous de la figure principale quand c'est un polyptyque, ou en dessous quand c'est une pure image du personnage. Et là peut émerger une deuxième interprétation, c'est-à-dire celle selon laquelle ce serait la figure qui parlerait, c'est-à-dire le Christ, la Vierge, qui dirait que c'est Simone qui les a peints, qui les a représentés. Donc, vous voyez que si on garde en tête la problématique de la subjectivation que j'évoquais au départ, la question de savoir quelle est la subjectivité dans l'œuvre devient très complexe. On a un nom propre pour un travail collectif, on a un personnage qui parle et dont on ne sait pas vraiment même si on adopte le point de vue d'une fiction de langage, si c'est l'œuvre matérielle ou si cela travaille à l'intérieur de l'œuvre. Alors, les variantes de ce point de vue vont m'intéresser simplement parce qu'elles vont permettre, à partir de ce schéma de départ, de complexifier un tout petit peu l'interprétation et d'essayer de tester les grandes idées que je viens d'énoncer autour de la formule classique Simone mais Pinksit. Donc quatre variantes, quatre inscriptions du nom qui diffèrent de l'inscription classique. La première, 1333, la très célèbre Annonciation du musée des offices de Florence, sur laquelle il est inscrit « Simone Martini et Lipus Memi, me Pinxerunt ». C'est quasiment la même formule, hein. On a toujours l'œuvre ou le personnage qui parle, mais on a l'ajout d'un deuxième nom, Simone Martini, et accompagné ici de Lipo Memi. Alors, ça m'intéresse beaucoup parce que c'est un exemple assez rare, la double attribution. Je ne connais pas non plus dans l'histoire de l'art beaucoup d'exemples, il y en a quelques-uns, mais disons on ne trouve pas couramment, et dans la peinture italienne du XIVe, c'est vraiment très rare d'avoir deux noms pour une seule œuvre. Pourquoi c'est très rare? Parce que, évidemment, on avait des collaborations artistiques sans discontinuer, hein, on le voit aussi bien par l'analyse matérielle que par l'analyse des contrats. Mais c'est très rarement inscrit sur l'œuvre. Alors, c'est très rarement inscrit sur l'œuvre parce que normalement, le nom propre, c'est celui du chef d'atelier, du chef de boutique, qui est très souvent, on le pense, le meilleur peintre, mais en réalité, on n'en a pas véritablement de preuves. C'est surtout le propriétaire matériel de l'ensemble du dispositif de production et le garant symbolique de ce dispositif. Donc, c'est Giotto comme les entreprises ou la boutique Giotto. Et alors là, apparaît Lippo Memmi, qui est un peintre siennois important des années 1320, 1330, 1340. Pourquoi est-ce qu'il apparaît ici? Alors, c'est là la première chose qu'on peut remarquer avec cette première signature. Lippo Memmi, en fait, c'est le beau-frère de Simone Martini. Et mon hypothèse est que Simone Martini a racheté, parce que c'était un peintre qui avait plus de succès, il a racheté la boutique de son beau-père. Le beau-père de Simone Martini était peintre. C'est chez lui, entre autres, que Simone Martini s'est formé. Il a épousé sa fille. Ses deux beaux-frères sont peintres aussi. Et en fait, je pense que Simone a racheté la boutique familiale. Et donc, c'est l'atelier de Simone, c'est l'atelier de son beau-père. Mais, dans un certain nombre de cas, il associe ses beaux-frères à des œuvres, par exemple à celle-là, et ses deux beaux-frères continuent à travailler et à signer des œuvres chacun de leur côté. Donc on a ici l'expression à l'intérieur de la signature d'une histoire familiale assez complexe qui est l'histoire cette boutique. Donc première manière, au fond, de dévoiler une dimension collective qui était tout le temps à l'œuvre, mais qui en général était effacée, sinon quand on se situait dans un cadre très particulier qui est celui des rapports familiaux entre Simone Martini et Lippo Memmi. Deuxième exemple, le fameux polyptyque Orsini, dont ici les tableaux sont... vous avez quatre des volets du polyptyque Orsini. Donc là aussi, c'est une œuvre de grand prix, c'est des petits tableaux. Hein, chaque panneau, là aussi, est à peine plus grand qu'une feuille. Et ce polyptyque Orsini, il note en dessous « Hoc opus pinxit Simone Decennis ». Alors là, c'est intéressant. Pourquoi ? Ça donne une autre, un autre regard qui est celui de la variation de désignation, puisque pour la première fois, vous avez l'œuvre qui est désignée. Ce n'est pas elle qui parle, on en parle de l'extérieur. Alors pourquoi est-ce que dans ce cas-là, le dispositif de signature désigne l'œuvre de l'extérieur ? Là aussi, une hypothèse possible est de considérer d'abord la matérialité de l'œuvre, c'est-à-dire une œuvre dont les parties sont disjointes, et donc qu'il s'agit de désigner comme opus une fois qu'on l'apprend dans son entièreté, mais qui n'est pas comme un polyptyque ou comme un tableau monumental. Deuxième aspect intéressant à remarquer, et de différence avec toutes les œuvres qu'on a vues auparavant, il ne s'agit pas cette fois d'une imago, c'est-à-dire d'une image d'une figure, même si elle est accompagnée d'autres figures comme dans les polyptiques. Il s'agit de ce qu'on peut appeler avec Alberti une historia. C'est-à-dire que vous avez bien une annonciation, mais l'ensemble du polyptyque Orsini raconte la vie du Christ, et que cette historia, cette histoire, si vous voulez, au fond, elle n'est plus un sujet, c'est plus Louis de Toulouse ou la Vierge qui parle en disant « me fecit », On a une narration, et cette narration, elle est désignée de l'extérieur comme un opus. Avant-dernière variante, là aussi très célèbre, là aussi restaurée depuis mon image, la Maesta du palais communal de Sienne, qui se trouve dans une des deux pièces peintes les plus célèbres du premier étage du palais communal de Sienne. Juste à côté, vous avez les fresques du bon gouvernement très célèbres sur lesquelles Patrick Boucheron a récemment écrit un livre à la suite d'autres historiens et historiens de l'art qui se sont affrontés à cette interprétation. Et là, vous avez dans le palais communal de Sienne cette réalisation majestueuse où l'inscription est cette fois « Es Aman di Simone ». Et alors, on peut restituer cette inscription en considérant que le « S » est le début de « sono » en italien, « je suis de la main de Simone ». Et cette inscription est intéressante parce que elle, c'est la seule inscription en langue vernaculaire. C'est la seule inscription en italien, toutes les autres inscriptions qui figurent sur les œuvres de Simone, de même que toutes les inscriptions sur les œuvres de Giotto, sont en latin. Une inscription en italien, où là aussi on retrouve la coïncidence de la figure de la Vierge et d'une expression à la première personne, qui cette fois est intéressante par cette dimension vernaculaire. On peut penser qu'on est dans le palais communal, qu'on est à une époque où le vulgaire tient une place politique importante dans les délibérations communales et où il s'agit que la chose soit lisible et compréhensible par tous, et pas simplement par ceux qui maîtrisent le latin. Mais en revanche, on retrouve non seulement la première personne, mais aussi la main. C'est intéressant parce que souvent, elle n'est pas évoquée ici. Or, cette main, elle est souvent évoquée dans les contrats. On dit que le peintre devra peindre de sa main. Alors évidemment, la main de Simone sur une œuvre monumentale de cette taille, elle a aussi en partie une fiction d'atelier, puisqu'on sait qu'il avait des collaborateurs et qu'ils ont travaillé à plusieurs, mais on insiste quand même sur cette attribution à la main. Et puis je finis, et vous allez voir que ce n'est pas sans intérêt par rapport à ce que je viens de dire sur la main, puisque là on a un célèbre distique, d'un manuscrit lui-même extrêmement célèbre. C'est la seule miniature, c'est la seule enluminure qu'on connaisse de Simone Martini. Il l'a réalisée pour son ami Pétrarque sur le frontispice d'un des plus célèbres manuscrits de Virgile, qui contient l'Énéide, les Bucoliques, les Géorgiques. Aujourd'hui, ce manuscrit est conservé à la bibliothèque ambrosienne de Milan. Et vous avez donc à la fois cette représentation du poète Virgile, et puis vous avez des tituli qui portent des inscriptions. Et sur les phylactères, on peut lire donc ce que j'ai transcrit là. « Mantoue donna naissance à Virgile qui imagina de tels poèmes. Sienne porta Simone qui peignit, alors on traduirait en français, de sa main, de tels tableaux. » En réalité, c'est écrit de ses doigts digitaux. Donc là aussi, une représentation de, du travail artistique. Alors, cette inscription, elle est très intéressante parce qu'elle a donné lieu à des kilomètres de bibliographie sur le thème « ut pictura poesis », c'est-à-dire le parallèle entre le poète et le peintre. Et effectivement, une partie de la construction de la figure du peintre à la fin du Moyen-Âge à la Renaissance, y compris de sa signature et de son nom propre, se joue dans l'imitation des pratiques littéraires et en particulier des pratiques poétiques. Et c'est tout à fait vrai et c'est ce que montre ici l'image. Mais ce qui m'intéresse, une fois qu'on la lit dans la perspective de tout ce que je viens de montrer auparavant, c'est que cette modalité de l'affirmation subjective et de la signature ou de l'attribution individuelle, cette modalité, disons, du modèle poétique, elle est en réalité, on le voit, extrêmement minoritaire dans l'ensemble de l'œuvre de Simone Martini. C'est-à-dire que ce qu'on a parfois considéré à l'époque moderne, au XVIe, au XVIIe siècle, comme une forme centrale de la subjectivation de l'artiste et de son affirmation à travers la revendication de l'œuvre et la signature, elle est au XIVe siècle, par rapport aux pratiques artisanales, par rapport au modèle épigraphique, par rapport au travail d'atelier, elle est en réalité, à ce moment-là, une voie sans doute promise à un avenir assez faste, mais tout à fait minoritaire dans les voies possibles d'affirmation du nom propre. Donc voilà, cela me conduit à conclure, si vous voulez, sur, au fond, la rupture avec la linéarité d'un schéma qui voudrait que le XIVe siècle soit les origines de la signature moderne et de sa fonction de valorisation liée à l'authenticité et au marché. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a bien des signatures médiévales, il y a bien des signatures dans la peinture du XIVe siècle, mais ce ne sont pas pour autant strictement les mêmes que les signatures et que les pratiques de signature qui vont suivre. Ce sont des signatures qui, effectivement, entretiennent avec le monde de l'épigraphie, avec le monde artisanal, avec la question de la spiritualité qui s'inscrit dans un certain nombre de ces formules, un rôle tout à fait central, mais d'une manière complexe et surtout d'une manière extrêmement polysémique. Vous voyez que la figure de l'individu créateur, ici, ne naît pas contre le métier au sens artisanal, elle ne naît pas non plus contre la dimension sacrée des œuvres, elle naît plutôt de ces pratiques et de ce processus d'émergence progressif. Et au fond, s'il y a une histoire à faire de la postérité de ces signatures, c'est plutôt de l'élagage de cette polysémie pour se concentrer progressivement sur une pratique de la signature qui va prendre une signification à la fois peut-être plus simple au sens plus univoque et en même temps beaucoup plus forte et beaucoup plus affirmée dans un espace social et culturel tout à fait nouveau qui sera celui de la peinture moderne et qui est celui dont Charlotte va vous parler maintenant.